J'accueille maintenant le journaliste, écrivain et sexologue clinicien Luc Biec, qui nous vient avec Vilain Gaillard, un très beau et très étonnant recueil de poèmes érotiques gays du 19e et 20e siècle, livre qui vient de paraître chez la Musardine. Bonjour Luc.
Bonjour Fred.
Pour commencer, j'aimerais vous faire écouter cela.
Este bichón del Turia que te mando, de dulces ojos y de blanca pluma, sobre laurel de Grecia vierte y suma, llama lenta de amor, lo estoy parando.
C'est un extrait des sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca qui aurait eu sa place dans votre recueil, chanté par mon copain Amancio Parada. En fait, les sonnets de l'amour obscur ont été découverts dans les années 80, ils étaient inconnus. Lorca est mort pendant la guerre civile, il a été assassiné. Et c'est le grand journal monarchiste, conservateur, très catholique, ABC, qui publie pour la première fois ces poèmes, sont les grands poèmes gays de Lorca. Et donc, en lisant votre magnifique recueil, j'ai pensé à Lorca et j'ai pensé à ces sonnets. Pourquoi ce recueil, Luc Biec ?
Parce que je trouve qu'il y a assez peu de place pour la poésie en général aujourd'hui, que la poésie érotique gay est assez peu valorisée, qu'on a des chefs-d'œuvre méconnus. Et aussi parce qu'en tant que grand lecteur de poésie, j'avais l'impression qu'il fallait proposer autre chose. Vous avez cité Fred tout à l'heure, Aragon et Prévert, qui sont un peu dans mon panthéon. Mais moi, à l'école, j'ai un peu subi de la poésie du type Émile Verhaeren, qui nous décrivait le plat pays où je suis né. Et il a fallu longtemps pour que je découvre la poésie dans tout ce qu'elle pouvait avoir de charnel, de sensuel, de friponne, de drôle aussi, d'amoureuse, et puis aussi, surtout parce que j'avais créé un spectacle autour de ces poèmes et que c'est l'éloge du désir, en fait.
Est-ce que la poésie érotique gay a une particularité ou elle peut s'inscrire aussi dans une poésie érotique hétéro, ou est-ce qu'elle a une signature particulière?
Je ne pense pas qu'il y ait de signature particulière, mais je pense qu'il y a des poèmes extrêmement connus, comme le sonnet du trou du cul de Rimbaud et Verlaine, qui est un pastiche, on le sait assez peu. À l'époque, il voulait répondre à un poète, un parnassien, qui avait écrit un poème sur toutes les parties du corps de la femme, sauf sur celui-là. Donc un soir, avec des amis, en picolant, en fumant des pétards, ils ont trouvé amusant...
En buvant de l'absinthe.
La plupart des auteurs cités buvaient pas mal d'absinthe, d'ailleurs. Ils ont décidé qu'il fallait contrecarrer ça et faire autre chose. Donc au départ, c'était quand même une énorme plaisanterie. Et il y a une énorme diversité d'auteurs. Il y a 21 auteurs et 38 poèmes. On a certains qui sont extrêmement connus et d'autres qui sont complètement oubliés. Et on a aussi d'énormes surprises. On a par exemple Ange de la Chabossière, qui est l'auteur, on le sait assez peu, du Catéchisme républicain, qui est un hymne laïque qui explique qu'il faut créer une constitution, qui a été écrit en 1794 et qui écrivait de magnifiques poésies érotiques. Donc il y a énormément d'auteurs extrêmement variés qui ont écrit des poésies érotiques. On ne peut pas forcément conclure grand-chose sur leur pratique ou leur goût ou leur vie personnelle, mais souvent, il y a beaucoup d'humour. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on trouve peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est fripon, coquin, polisson, il y a une énorme variété, et puis évidemment parfois très très romantique.
Comment avez-vous choisi les poèmes ? Vos goûts personnels, ou il y avait une ligne directrice un peu didactique ?
Au départ, comme le spectacle a été créé dans un cabaret qui s'appelle Chez Olympe et qui est à Pantin, il fallait que ce soit des spectacles qui soient jouables.
À Pantin, dans la région parisienne.
Oui, tout à fait. Il fallait des textes qui soient jouables par les deux comédiens avec lesquels j'avais souhaité travailler. L'un s'appelle Vincent Vilain et l'autre Vincent Gaillard, d'où le titre du...
Vilain Gaillard.
De la pièce et du livre, c'est leur véritable identité. J'ai d'abord trouvé qu'il fallait qu'ils racontent une histoire et qu'ils soient agréables à entendre lors d'une lecture. C'est pour ça qu'il y a des poèmes de Fédot qui sont particulièrement théâtraux avec beaucoup de rythme, et il fallait que les poèmes aient du rythme. Et j'ai aussi éliminé ce qui est très très présent dans la littérature homosexuelle en général, la honte et l'autoflagellation. Moi, quand j'ai découvert la littérature avec Yves Navarre, qui avait eu le prix Goncourt, je me suis retrouvé à la vingtaine confronté à un tas d'auteurs qui se flagellaient en permanence sans que ça n'ait rien d'érotique. Donc je voulais que ce soit joyeux, en fait.
Il y a des poètes très connus, hein, vous en avez parlé, vous citez Apollinaire, Lamartine, Rimbaud, et d'autres moins connus comme Albert Glatigny ou Ange de la Chabossière dont vous venez de parler. Moi, je ne les connaissais pas. Hein. Enfin, Glatigny, oui, mais pas la Chabossière. C'est une volonté de mélanger ça, de se servir quand même de gens très connus pour attirer, et puis quand même d'en profiter pour faire découvrir d'autres auteurs.
Alors déjà, attirer sur la poésie aujourd'hui, ce n'est pas évident. En fait, je crois qu'il y avait quand même une volonté de remettre au goût du jour un poète comme Jean Lorrain, qui était assumé, qui était visible. On nous décrit la question du coming out et de fait d'évoquer sa vie sexuelle comme quelque chose de récent. Il y a des gens qui étaient extrêmement visibles. Il faut rappeler que Rimbaud et Verlaine vivaient en couple et ne se cachaient absolument pas.
On leur a reproché d'ailleurs.
Bien sûr, ça a été une vie extrêmement complexe qui d'ailleurs a passionné beaucoup de chercheurs. Après, on a des gens comme Raoul Ponchon qui était plus dans l'école du chansonnier et qui écrivait pour des quotidiens. À l'époque, il y avait des dizaines de quotidiens qui étaient extrêmement vendus.
Donc c'est quelle époque ?
On est au début du 20e, en fait. On est au début du 20e. Et il y a eu une sélection, évidemment, par mes goûts personnels. Et après, il y a des poètes qui sont aussi peut-être moins connus du grand public, comme Constantin Cavafis, qui est grec, et qui avait la particularité de considérer que la poésie devait être distribuée et qui imprimait des pages. Voilà, pour les distribuer, tout simplement. Donc il y avait effectivement des gens aussi qui se battaient un peu pour diffuser leurs œuvres. Et la plupart de ces œuvres-là ont été éditées sous le manteau en Suisse et en Belgique, parfois même juste imprimées, parce qu'il n'y avait pas vraiment un travail d'éditeur, pas systématiquement.
Pourquoi n'y a-t-il pas de poème de Jean Genet ? Parce que ça, j'étais un peu surpris en lisant votre recueil.
C'est une interrogation légitime. Il est né bien
parce
après.
Parce que le Condamné à mort, enfin, c'est un recueil magnifique. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, ça avait été mis en musique par
Étienne Dao. Et il y a eu un spectacle avec Jeanne Moreau qui était donné en Avignon. Ouais. Il est né en 1910, il est mort en 1986. Ses premiers textes sont parus en 43, ils ont été interdits parce que pornographiques. Et ce qu'il a d'abord publié, c'est Notre-Dame des Fleurs, qui est un roman. Donc nous, on est vraiment sur la génération d'avant. On est des gens sur des œuvres et des auteurs qui sont nés au 19e, voire au 18e, pour certains.
Donc ce n'est pas un rejet de Genet, c'est simplement
absolument pas.
Pour un choix éditorial, on va dire.
Ce n'est pas un rejet de la modernité. Il y a des poètes contemporains comme Florian Bardou, dont j'aime beaucoup le travail. C'est absolument pas... C'est qu'à un moment donné, il faut se limiter. Et il faut aussi dire que les poèmes de Jean Genet ont été beaucoup, beaucoup repris, comme on l'a évoqué. Et que là, il y a des poèmes qu'on découvre complètement, qui ont été très, très peu publiés. Et ça a été parfois très long, très complexe de les retrouver.
Je me souviens d'une déclaration de Léo Ferré, mon maître à penser, qui se plaignait déjà il y a 35 ou 40 ans qu'on ne lisait plus de poésie en France. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le pauvre.
Et je suis surpris d'abord de voir le nombre de poètes contemporains qui publient des livres aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des maisons d'édition qui sont consacrées à la poésie.
Ils sont courageuses.
La Musardine fait un travail assez exceptionnel. La Musardine, c'est une maison d'édition qui a beaucoup publié des gens qui ont travaillé sur la censure. La censure des textes érotiques, notamment Jean-Jacques Pauvert, qui a beaucoup publié à la Musardine. Donc, je pense qu'il y a véritablement un retour. On voit des festivals de poésie qui apparaissent un peu partout. Nous, quand on fait notre spectacle, on a eu un petit peu de monde. C'est quelque chose qui est en train de revenir parce que c'est l'éloge du sensible. C'est des poèmes qui sont en général là, dans ce recueil, faciles à lire. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de ne pas faire des poèmes du XVe siècle où on se retrouve avec de l'ancien français et une vraie complexité de lecture. C'est très bien quand on est chercheur, qu'on a les codes, mais ce n'était pas ma volonté. Ma volonté, que ce soit accessible au plus grand nombre.
Et c'est réussi, très réussi. Merci beaucoup, Luc Biec.
Merci,
Vilain
Fred.
Gaillard, recueil de poèmes érotiques gays des 19e et 20e siècles. C'est à retrouver aux éditions de la Musardine. En plus, la couverture est très belle.
Oui, elle est de Cyril Oliviero. Elle est vraiment très belle. C'est un très bon graphiste.
Ouais, je vous remercie. C'est magnifique. C'est déjà la fin du 44e, de notre podcast, de votre podcast des livres RMC. Merci infiniment, Gavin Scamante-Ruiz.
Merci à vous.
Bravo pour votre roman, Le Café des Rêves, qui vient de sortir chez IXO Éditions. Et merci, Jean-Michel Dian, Des Proches en gros caractères, qui vient de sortir au Cherche Midi. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr et sur l'appli RMC. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout abonnez-vous. Et l'on se quitte avec un peu de musique d'Astor Piazzolla. Et allez, quelques vers d'Edmond Haraucourt, l'un des poètes du recueil de Luc Biec. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. Et l'on part et c'est un jeu, et jusqu'à l'adieu suprême, c'est son âme que l'on sème à chaque adieu. Partir, c'est mourir un peu.